Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégie de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariat, de stratégie d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo, au format court, ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Bonjour à tous, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, sachez que ce jeudi 21 mars aura lieu la journée mondiale de la trisomie 21. Et c'est vraiment l'occasion pour moi de mettre en avant un projet, le Training Café, un concept inédit, un tiers-lieu solidaire à impact social qui s'est installé dans l'ancienne gare de Niolon que j'ai découvert en janvier dernier lors d'un de mes séjours à Marseille. J'ai effectivement eu la chance de découvrir les Calanques près de Marseille, à Niolon très exactement, en empruntant le train touristique de la Côte Bleue, une ligne ferroviaire vraiment connue pour arpenter vraiment le littoral qui part de Marseille et qui va jusqu'à Miramas. Et mon aventure commence en gare de Niolon, à seulement 20 minutes en TER de Marseille, où je découvre un concept inédit, donc ce Training Café. Et vraiment Training Café pour dire le train et Inc pour inclusif. C'est vraiment un tiers-lieu solidaire, comme je vous le disais, qui s'est installé, qui a vraiment investi l'ancienne gare de Niolon. C'est en revenant de ma randonnée dans les Calanques que j'ai pu prendre le temps de rencontrer les porteurs de ce projet ambitieux et tellement humain. Et vraiment, j'avais envie de mettre ce projet à la une pour cet épisode qui sort vraiment la veille de cette journée mondiale de la trisomie 21. Et donc, j'ai eu le plaisir de recevoir aujourd'hui Katia Bergamelli, la présidente de l'association TECAP 21 qui porte ce projet du Training Café. Juste très rapidement pour la petite histoire. L'association TECAP 21 a été créée en 2015 et au-delà d'une nouvelle association qui traite de la trisomie 21, là, les familles sont vraiment concernées par les projets à l'âge adulte. Et si au départ, les actions menées par l'association étaient plutôt des actions sportives, aujourd'hui, leur mission, c'est vraiment de les mixer à des publics ordinaires, mais bien au-delà de ça, vous allez voir, c'est vraiment de les aider maintenant à construire leur avenir, et ça passe par vraiment un projet qui soit plus global, qui prenne en compte l'autonomie résidentielle et la création d'emplois. Je vous en dis pas plus et vous laisse découvrir mon échange avec Katia Bergamelli et je vous retrouve à la fin de cette interview pour la conclusion. Belle écoute à tous. Bonjour Katia, je suis ravie de pouvoir t'accueillir au micro aujourd'hui. J'ai trouvé le concept du Training Café lorsque je l'ai découvert en janvier dernier vraiment original à deux niveaux. Parce que c'est d'abord un projet inclusif, mais aussi un projet d'hébergement totalement inédit puisque vous avez investi l'ancienne gare de Niolon. Enfin la gare de Niolon, je dis l'ancienne gare, mais c'est toujours la gare de Niolon. Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter quand même la mission phare de l'association TECAP 21 et puis comment est né le projet du Training Café?
Alors, bonjour Yen, merci de l'invitation. Voilà, TECAP 21 veut dire tu es capable même avec ton chromosome 21 et nous sommes des parents concernés par la trisomie 21 de nos enfants devenus adultes. Mmh. Et il devenait nécessaire de créer une association spécialisée dans l'âge adulte en proposant de l'activité sportive pour leur stimulation, pour continuer leur stimulation motrice. Et ensuite, le projet professionnel, puisque bien souvent, c'est l'impasse à l'âge adulte. Il n'y a rien de proposé en milieu ordinaire.
Et donc, puis l'autonomie résidence, résidentielle.
De l'autonomie résidentielle pour justement construire ce projet de vie global, c'est-à-dire à la fois dans les transports, avoir un appartement, avoir un emploi et puis une vie de loisirs en mixité avec tous.
Super. Et alors, vous avez imaginé un projet qui est vraiment dingue, un tiers-lieu qui est vraiment assez dingue. Tu peux nous expliquer toutes les spécificités de ce projet, de ce concept? On peut déjà peut-être commencer par la réhabilitation de la gare de Niolon.
Oui, nous avons eu la chance d'exploiter, grâce à la SNCF Gare et Connexion, la petite gare centenaire de la Côte Bleue à Niolon, située dans la Calanque de Niolon, et qui est toujours en activité. Le train s'y arrête, mais la bâtisse était abandonnée. et nous avons eu la chance de la rénover grâce à des mécènes pour y installer le premier café-école, auberge-école éco-responsable dans un milieu rural et qui propose un hébergement et un espace de restauration.
D'accord. Donc, en fait, effectivement, il y a quand même un but que tu viens bien de souligner, c'est que le but, c'est de former. Donc, c'est une auberge-école, c'est un café-école et il y a vraiment ce côté entreprise adaptée, du coup.
Oui, tout à fait. Donc, après donc, les travaux, nous avons demandé un agrément auprès de la direction de l'emploi pour devenir une entreprise adaptée sous forme associative, de manière à employer des jeunes éloignés de l'emploi, comme nos jeunes portant un handicap mental. Et au bout de 2 ans, nous avons eu cet agrément, en plus d'être un tiers-lieu, fabrique des territoires et du numérique, parce qu'une gare est un haut lieu d'échange et s'avérait normal de le transformer en tiers-lieu.
Donc, c'est vraiment un lieu de vie à part entière. À la fois, on y viendra un peu après, parce que tu as développé énormément de services, énormément de... Enfin, tu as vraiment étendu le concept. On va le définir. Rappelle-moi la durée des travaux qui ont nécessité pour cette réhabilitation, en sachant que tu peux peut-être réexpliquer cette gare à chaque étage, ce qu'on y trouve.
Oui, alors il nous a fallu 2 ans pour vraiment tout réaménager, étant donné qu'aucune plomberie n'existait. Il a fallu tout créer. Alors, au rez-de-chaussée, c'est le café avec l'espace extérieur et une scène qui jouxte la gare, qui propose des spectacles hein, de tout genre, aussi bien des musiciens que nos jeunes, qui sont nos étoiles, puisque maintenant, oui. Le Tani Café s'appelle la gare des étoiles parce qu'il y a une scène et que nos jeunes se mettent en scène.
C'est
génial. Il y a aussi un potager en permaculture. Au premier étage, c'est leur appartement qui permet de justement se former à l'autonomie résidentielle, ce qui est important de travailler.
Ça s'apprend. Ça s'apprend.
Voilà, donc de temps en temps, ils sont accompagnés par une personne qui les gère, qui gère le ménage, comment faire un budget, comment faire attention aux produits ménagers. Le matériel électrique commence, utiliser une cuisine, voilà, tout okay. Ça, c'est important de l'apprendre. Ensuite, le deuxième étage est consacré aux chambres d'hôtes. Nous avons des touristes qui viennent y séjourner en chambres d'hôtes. Également, le troisième étage est un gîte d'étape avec à la fois des lits pour héberger des groupes, mais aussi, c'est modulable, nous avons un espace séminaire qui permet de faire de la visio. Il y a des entreprises qui réservent les espaces.
D'accord.
À la fois au premier étage, à ce troisième étage et au rez-de-chaussée.
D'accord, ok. Qui vraiment investissent toute la gare, du coup.
Toute la gare est investie et bientôt même le moins un sera...
Ah oui, tu vas...
okay. Un autre projet, alors ça d'accord. C'est plus long terme, c'est un espace numérique, une salle virtuelle.
D'accord, super.
C'est dans l'air du temps.
Et la terrasse, que je n'ai pas eu malheureusement le plaisir de découvrir en janvier, rappelle-moi la capacité d'accueil de cette terrasse assise, en place assise, hein, parce que du coup, vous faites de la restauration, de la petite restauration. On parle de combien de couverts sur cette terrasse ?
Alors, la terrasse extérieure sur le jardin peut accueillir à peu près une 60aine de couverts en même temps. Mais également, nous avons une terrasse de 30 mètres carrés au premier étage qui deviendra, d'ici cet été, une table d'hôte exceptionnelle avec vue sur mer.
Oh là là, ça, tu ne me l'avais pas dit. Tu me réserves encore des surprises en plus.
Super. Surprise.
Alors justement, on va revenir un petit peu. Donc, 2 ans de travaux, ok.
2 ans de longs et durs travaux, ça n'a pas été facile. Déjà pour réunir des fonds, mais ouais. Ensuite, une fois que le projet était bien connu, on a réussi à rassembler l'argent nécessaire. Mais après, comment trouver des bons artisans? Ça a été quand même assez difficile.
Un parcours, ouais, ça a été un sacré parcours.
On peut le dire, avec des façons, des petites choses. Mais on y est arrivé, on est retombé sur nos pattes. Et bien sûr, comme nous sommes des parents déterminés, il fallait avancer. Et depuis plus d'un an, nous sommes en activité.
Voilà, c'était en janvier 2023 que vous avez...
Janvier 2023, voilà, ouais. Le grand démarrage de la gare des étoiles.
Ce qui sous-entend qu'effectivement, la crise Covid, finalement, pour vous, si j'en crois le calendrier, ça a été une opportunité pour vous de structurer, en fait, de revoir vraiment le projet et de bien prendre le temps de le préparer, ce projet.
Oui, tout à fait, parce que l'idée d'avoir une activité dans une gare est née du fait que j'ai une petite gare qui est la même, juste en dessous de chez moi, et je me suis battue pour l'avoir. Et du jour au lendemain, on m'a dit non, c'est pas cette gare, ça va être l'autre, alors vite, est-ce que ça vous intéresse? Il a fallu vite s'engager.
Une décision. Ouais.
Et c'est vrai que la crise Covid a permis à toute l'équipe de se structurer, de bien savoir ce qu'on voulait y proposer, parce qu'au départ, on n'avait qu'un petit espace, et puis finalement, la gare complète. Donc, il a
Ah oui, il y a
fallu.
eu plein d'opportunités. C'est vrai que tu me l'avais expliqué. Il y avait une locataire à la base qui occupait un étage.
Il y avait une cheminote, voilà,
Ouais.
qui était en logement de fonction, qui n'était pas du tout favorable à notre cohabitation. Alors, c'était un petit peu douloureux au départ pour déjà parler du projet auprès de la presse, parce que c'était hors de question de venir filmer, elle
Ah
n'autorisait
oui.
rien. Et ensuite, bon, finalement, grâce à la crise Covid, elle a dû partir, puisqu'elle était vraiment à l'âge de la retraite. Et ça paraissait trop difficile pour elle de rester seule dans cette gare abandonnée, hein, puisque
Eh oui, du coup, ouais, plus de
c'était
passage, ouais.
terrible pour elle, hein, de vivre toute seule ici dans un endroit squatté, hein. Donc elle nous dénigrait dans l'endroit et c'était normal puisque abandonner amène à de l'insécurité. Mais c'est pas du tout le cas, au contraire, nous amenons de
D'accord.
la sécurité, nous
D'accord.
avons rétabli l'ordre dans cette calanque, hein, qui
Super. Ben, effectivement, c'est ce que moi j'ai découvert. Ouais. Alors du coup, aujourd'hui, le Training Café, pour résumer, propose une activité d'hébergement ouverte à l'année. Ça, c'est bien spécifique. Ouvert à l'année,
l'année.
en fait, parce que le train, lui aussi, il tourne toute l'année.
Le
Euh,
train,
donc,
voilà.
donc, pour rappel, hein, vous êtes pile sur le passage de la ligne de train touristique, la Côte Bleue, qui est vraiment une ligne touristique qui attire quand même beaucoup de monde et qui a ce gros avantage d'avoir une vue incroyable depuis les viaducs sur toute la mer Méditerranée, donc au départ de Marseille jusqu'à Martigues, même Istres, je crois, maintenant.
Jusqu'à Miramas, c'est du
Ça va jusqu'à
Marseille-Miramas.
Miramas. Oui, c'est vrai.
Voilà, en 20 minutes depuis Saint-Charles, on est connecté.
C'est ça.
C'est la gare la plus proche de la mer, de la côte, à 300 mètres
Ah
à
oui?
pied. On accède au
Je
petit
confirme.
port. Et bien sûr, nous sommes vraiment sur le chemin du sentier du douanier,
Oui.
qui est très connu de plus en plus. Et du coup, effectivement, il y a de la fréquentation toute l'année. Toute l'année. Donc
Bah, la preuve,
l'hiver.
je suis venue en plein mois de janvier, tu vois. Et donc, trois
Dans
chambres
l'hiver, des
d'hôtes.
baigneurs l'été, voilà.
Ouais. Donc, trois
Trois
chambres
chambres
d'hôtes,
d'hôtes,
un gîte d'étape pour accueillir
bientôt
bientôt
cinq
cinq.
chambres.
OK.
Ouais, on repousse les murs parce qu'on a tellement de succès, mais
Super.
voilà, c'est surtout aussi pour permettre à nos jeunes d'y travailler avec une équipe plus dense. Là, aujourd'hui, on a six salariés, on va bientôt engager trois autres personnes, donc c'est bien. Ça permet de donner du travail à plus de personnes.
En sachant que dans les salariés, il y a effectivement les personnes en situation de handicap, mais il y a aussi les encadrants.
Il y a des encadrants, il y a
Oui.
trois encadrants non concernés par le handicap mental, mais certains sont concernés, pardon, par le handicap moteur, donc
D'accord.
handicap invisible aussi.
Ok, ça
Voilà.
je ne savais
On a
pas. Très
mixé
bien.
les handicaps et c'est ce qui fait la force aussi de ce projet, puisque la direction de l'emploi aide toute forme de handicap. Les RQTH, travailleurs reconnus, handicapés, hein, c'est ce qui nous permet, voilà, d'exister. Et il y a une économie autour de ça qui marche bien, ça, cette aide.
D'accord. Je voudrais juste revenir sur le fait que tu as bien souligné que c'était un gîte d'étape qui a occupé le troisième étage, qui peut accueillir jusqu'à 10 personnes aujourd'hui ou transformer en salle de séminaire. Pourquoi avoir choisi le format gîte d'étape, sachant que tout le monde ne connaît pas forcément le principe, en tout cas, on va le rappeler. Donc, en tout cas, tu as la première invitée sur le podcast qui gère un gîte d'étape. Je sais qu'il y en a dans nos auditeurs. Donc, les spécificités de ce format. Tu peux nous rappeler à qui ça s'adresse en particulier, à quel type de profil de voyageur ça s'adresse en particulier?
En fait, le gîte d'étape s'adresse à tous les randonneurs. Il était nécessaire d'avoir une étape sur Niolon, puisque le sentier passe
Le
vraiment
sentier des
devant cette
douaniers,
étape.
donc dont tu
Sentier
viens
des
de
douaniers,
parler.
voilà, c'est le sentier des douaniers. Et un gîte d'étape, c'est un espace commun avec une cuisine à disposition, des espaces de vie pour ces marcheurs. Et nous avons régulièrement des groupes de marcheurs qui viennent de la France entière. Ils sont vraiment très heureux de trouver un espace aussi grand parce qu'il y a des gîtes d'étape sur la Côte Bleue, mais vraiment avec moins de capacité.
D'accord. Ok.
C'est donc plus importante.
Sachant que vous, en plus, au rez-de-chaussée, il y a cette partie lieu de vie avec la petite restauration, le bar, la terrasse, etc. Donc, il y a vraiment du plus, quoi.
Ouais. Toutes les installations pour y séjourner.
Donc, c'était vraiment une véritable demande de la part de cette clientèle de randonneurs qui ne trouvaient pas de gîte. Ouais. En sachant que le gîte d'étape, on est d'accord, hein, c'est des pièces sous forme de dortoir. En fait, c'est comme un refuge, mais en ville.
C'est un dortoir. Il y a plusieurs espaces de 3 places à 10 places.
D'accord. OK. Ok, très bien. Et puis, il y a une petite spécificité vous concernant. Tu as bien rappelé que c'était un projet, une entreprise adaptée sous format associatif. Pour séjourner, vous demandez une adhésion à l'association de 5 euros. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette demande d'adhésion, même si on peut concevoir que c'est une forme de soutien symbolique, mais ça t'ouvre des possibilités, si j'ai bien compris.
Oui, voilà, en fait, c'est... À la fois, il y a dans l'association des membres actifs qui travaillent pour aider nos jeunes à faire des activités, mais les membres usagers sont tous ceux qui viennent s'associer à ce projet, ce grand projet. Et en même temps, quand ils séjournent chez nous, ben, c'est un peu une assurance pour leur permettre d'être dans les locaux.
D'accord.
À la suite de ça, nous allons passer en ERP.
Oui, établissement recevant du public, d'accord. Voilà. Ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, encore.
Ce n'est pas le cas parce que voilà, nous y allons progressivement, nous ne serons jamais un vrai hôtel. On veut rester en mode associatif, convivial. C'est une association qui fait vivre, certes, des personnes, mais qui veut garder son authenticité, sa convivialité.
Donc, en fait, cette adhésion à l'association permet de couvrir la protection de l'usager quand il séjourne chez vous en attendant cette obtention de l'ERP. Ça, je ne savais pas, tu vois.
Oui, tout okay. À fait. C'est important de couvrir toutes les personnes qui sont dans le lieu, puisque nous contractons une assurance et il faut que ces usagers soient couverts.
Ok. Et donc, ça fait plus d'un an que vous êtes ouvert. D'après les premiers retours des voyageurs que tu as reçus, quels sont... les premières motivations de leur séjour, d'après toi, est-ce que c'était l'emplacement parce que t'es pile à la gare et tu prends ta valise et tu t'installes et c'est terminé? Est-ce que c'est le côté solidaire ou sociétal ou social, comme le terme que tu veux employer? Qu'est-ce qui motive vraiment les voyageurs à séjourner en gare de Niolon, à la gare des Étoiles?
Alors, pour la plupart, c'est une découverte. Hein. Ils débouchent sur cette oasis et ils se renseignent en disant « Mais mon Dieu, quel lieu extraordinaire !» Donc, on permet à des gens d'être à l'aise dans un endroit convivial avec des espaces verts. C'est assez vaste, calme aussi. Hein. Donc, les gens se ressourcent principalement.
Ok. Et puis, il y a quand même ce côté très familial, parce que finalement, dans les encadrants, bah, certains sont les parents des enfants qui travaillent aussi là. Enfin, je dis des enfants, c'est plus des enfants. Des salariés, voilà, des adultes qui travaillent. Et moi, j'ai ressenti ce côté vraiment familial. Ouais,
et mais accueillant. C'est familial, c'est très familial, c'est très convivial. Nos jeunes porteurs de trisomie 21 ou d'autres handicaps mentaux sont généreux, sont heureux de rencontrer des publics, fiers de montrer qu'ils savent travailler et sans filtre. Donc, il y a des conversations vraiment géniales, un mélange, une mixité fabuleuse. Et c'est vraiment un haut lieu de l'échange.
Ok, c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti. Ouais. Et est-ce que est-ce que tu as constaté plutôt que tu as attiré une clientèle plutôt de passage qui habite pas très loin, donc plutôt proche Marseille ou alentour en tout cas, ou une clientèle plutôt au contraire très lointaine? C'est quoi le type de profil? Est-ce qu'on est vraiment sur du Marseillais qui est pas loin? Est-ce qu'on est vraiment sur Côte d'Azur, quoi? Ou est-ce que c'est des gens qui viennent vraiment de loin et qui, par exemple, typiquement voulaient faire ce train touristique de la Côte Bleue, par exemple?
Alors, le public est à la fois marseillais comme international. Et d'ailleurs, nous sommes obligés de former nos jeunes à l'anglais et l'allemand. Donc, on leur donne quelques petites bases c'est rigolo, ils adorent. Mais voilà, en fonction des périodes, on a le public marseillais plutôt l'hiver.
D'accord.
Ou en printemps pour éviter la masse touristique. Mais sinon, c'est du public international. Par exemple, l'année dernière, avec les compétitions internationales de rugby, on a eu des clients de Nouvelle-Zélande, d'Australie.
D'accord.
Voilà, on a aussi la chance d'avoir un petit trafic, c'est pas un trafic, c'est un caravelle 9 places, un petit véhicule qui déplace des passagers. Donc, on peut les emmener, proposer des accompagnements quand il n'y a pas de train. Parce que le train y est, certes, mais pas tout le temps. Il y a des aléas, donc
tout aussi. Ok, donc plutôt hors saison, on va dire clientèle de proximité, et pleine saison, on est plutôt sur une clientèle qui peut être jusqu'à l'international. D'accord.
Des clients qui viennent, mais vraiment du monde entier.
Ok.
Des Américains, des Anglais, on découvre à chaque fois d'autres cultures. C'est passionnant, tous ces échanges.
Mais j'en doute pas. Quand j'ai préparé l'épisode, j'ai découvert que le Training Café avait vraiment bénéficié d'une très large couverture médiatique depuis son lancement. Notamment, j'ai vu des reportages sur France 3 Régions, BFM Marseille, entre autres. Est-ce que tu aurais des astuces à partager aux hébergeurs qui, comme toi, aimeraient bénéficier d'une belle couverture médiatique ? Est-ce que tu as mis en place des actions spécifiques pour attirer ces journalistes ?
Alors, bon, j'ai déjà un super site internet qui aide beaucoup, qui donne énormément d'informations à ces médias. Donc, à la fois tcap21.fr ou trainingcafé.com. Mmh. Bien sûr, nous avons des plaquettes de présentation. Et puis, nous avons l'occasion d'intervenir dans des soirées à thème sur l'inclusion. On essaye à chaque fois de communiquer. C'est un deuxième volet important.
Être le porte-parole en fait de ce handicap.
Donner une belle image sur le handicap mental comme la trisomie 21. Parce que, bien sûr, il y a des préjugés. J'en parlais encore hier soir lors d'un colloque. Les employeurs ont des difficultés à employer ces personnes, pensant qu'elles ne sont pas capables, pas régulières dans leur travail, alors que c'est tout l'inverse. Et du fait d'être un projet pilote, ça ouvre des portes. Et aujourd'hui même, nous travaillons sur l'essaimage.
On y viendra effectivement de ce projet d'essaimage qui est vraiment intéressant. Voilà. Est-ce qu'au moment du lancement, vous aviez lancé des invitations à la presse également ?
Alors, pour la petite histoire, avec justement cette crise Covid et compagnie, on n'a pas encore organisé
l'inauguration officielle. D'accord.
Qui va dévoiler le dibon de tous les partenaires, parce qu'il est important de les mettre en avant, ces partenaires, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu monter cet espace sans faire appel au crédit bancaire. Oui, bien sûr, on a zéro crédit aujourd'hui. On a démarré avec un fonds de roulement important, ce qui fait que on part pas avec un handicap.
D'accord. Et puis, tout bêtement, comme là, on enregistre et l'épisode va sortir la veille de la journée mondiale de la trisomie 21, qui est chaque année le jour du printemps. J'imagine que c'est aussi un sujet annuel, ce qui s'appelle dans la presse un marronnier, un rendez-vous récurrent chaque année.
Une fenêtre médiatique pour nous.
Ouais. Vous surfez sur ça à chaque fois, chaque année ?
Oui, chaque année, nous sommes invités sur un plateau télé où on a l'occasion d'organiser une action de communication sur place. Cette année, ça va se faire un petit peu en dehors puisque nous avons participé à un shooting photo avec une autre association parce qu'on collabore beaucoup avec d'autres associations.
D'accord.
21 rêves et il y aura un grand... une grande exposition de photographie à Aix où nous aurons l'occasion de présenter les jeunes avec leurs familles. Donc c'est vraiment les jeunes et leurs familles, c'est ce qui a été mis en avant cette année.
Super.
Sinon, nous, ce sera en avance de la journée du 21. C'est le 14 au Sofitel Vieux-Port. C'est dans l'hôtel très connu. Nos jeunes vont préparer un cocktail et servir ce cocktail à un club d'entreprise.
Super, super. Voilà. Ok, bravo. Bravo pour ce projet et bravo aussi au Sofitel. Bravo aussi au Sofitel d'être partenaire de ça. Du coup, en parlant de partenaires, justement, comment est-ce que les acteurs du tourisme, qu'ils soient locaux ou régionaux, soutiennent le projet? Est-ce qu'il y a des partenariats ou projets que tu aimerais développer plus spécifiquement ou pérenniser? Je pense par exemple à la SNCF. Est-ce qu'il y a des partenariats ou des projets que tu veux vraiment développer sur le long terme? Tu as déjà un petit peu dévoilé un projet qui est celui des SEMAGE, c'est-à-dire que tu, comme tu l'as dit, la Gare des Étoiles est un projet pilote et que tu aimerais finalement étendre ce concept sur l'ensemble du territoire français. Est-ce que tu peux nous en dire plus du coup?
Oui, alors déjà pour la petite histoire, le grand partenaire est la SNCF Gare et Connexion. Pourquoi? Parce qu'en les sollicitant, on pensait que c'était bien de réhabiliter d'autres espaces. Donc, ils ont créé, grâce à nous, 1001 gares, la place de la gare, en finançant une partie de l'investissement.
D'accord.
Donc, ça, c'était déjà, c'était une grande aventure avec eux. Et du coup, on s'est dit, puisque on est un peu les précurseurs et qu'on a initié ce grand projet, pourquoi ne pas continuer dans cette voie en essaimant ce projet dans les espaces qui seront à disposition de 1001 gares, la place de la gare.
D'accord.
Donc, notre premier partenaire est effectivement la SNCF. Gare et Connexion, hein, c'est l'entité qui gère ces espaces. Et autour de ça, nous travaillons avec des institutionnels, des fondations aussi, des grandes entreprises pour que le repreneur, puisque nous voulons donner un kit de réplication à une autre association. C'est un matelas financier au départ, notre savoir-faire pour répliquer et voilà, essaimer des trainings partout en France et même au-delà, avec chaque fois une spécificité. Ici, c'est la gare des étoiles parce qu'on a une scène. Et on voit
chaque gare aura, chaque projet aura sa spécificité. Du coup, c'est une sorte de concept de franchise associative, en fait, finalement.
Une franchise associative, pas forcément en demandant, en assommant l'association d'une redevance quelconque. On va essayer vraiment de les s'aimer par de l'ingénierie. On va porter ces associations au départ pour qu'elles puissent après voler de leurs propres ailes.
Le but étant de les accompagner à obtenir elles-mêmes leur agrément de tiers-lieu, voilà, comme vous. En fait, de leur partager tout ce que vous avez mis en place. Voilà, c'est ça. Vous avez essuyé les plates de tout ça et maintenant, c'est vraiment de le partager au plus grand nombre. Super. Et justement, je me posais la question, vous avez, vous n'êtes pas du tout issu du monde de l'hôtellerie de la restauration au départ.
Non,
et du coup, comment...
Des familles concernées venant
De tous horizons, ouais.
Horizons, voilà. Moi, je viens du maritime. Je travaillais pendant 30 ans dans les conteneurs. Je connais parfaitement...
Comment vous êtes formé, du coup, à l'hôtellerie et la restauration? Est-ce que vous êtes formé? Comment vous êtes formé, justement, à ça? Vous avez développé, je crois que tu m'avais dit, un mécénat de compétences?
Oui, tout à fait. Alors, au coup par coup, on s'est formé en rencontrant professionnels du tourisme qui nous ont dit il faut faire comme ci, comme ça, mais juste en conseil. Et maintenant qu'on a créé ces espaces, il faut bien sûr professionnaliser et travailler avec des hôtels bien implantés. Et on a la chance d'avoir un contrat de mécénat avec un hôtel de luxe sur Marseille qui s'appelle les Bords de Mer.
D'accord.
Qui est fabuleux et avec eux on travaille sur les process dans l'hôtel, puisque pour former nos jeunes il faut d'abord bien
maîtriser les process,
découper toutes les tâches, bien expliquer et puis après les expliquer à toutes ces personnes.
Et cet hôtel de luxe, il bénéficie d'un label, je crois, le label Clé Verte, implique justement de travailler avec des associations, du coup. C'est aussi...
C'est du gagnant-gagnant, en fait.
Oui, voilà, ok, ça marche. Et puis, pour ce projet d'essaimage, pour terminer sur ce point-là, vous aviez été accompagné dès le départ par un cabinet conseil, on peut le nommer, hein, si tu le souhaites, le cabinet conseil Philae, qui...
Oui, TAE Associé a été vraiment la clé du succès de notre projet devenu réalité. Parce que, bien sûr, comme je disais, nous sommes des parents, certes un peu initiés au montage de projets, mais ça restait plus dans le cadre d'une petite activité par-ci, par-là. Là, il s'agissait d'un grand projet socio-économique avec le montage d'un plan de financement précis pour que ce soit durable. Et on était obligé de passer par ces experts. Mmh. Et ce cabinet FILA et associé est spécialisé dans le handicap, dans le montage de projets tourné vers le handicap. Donc, ça nous allait très bien.
Ouais. Et puis, qui est présent partout sur le territoire aussi, non, c'est ça ?
Présent partout, à Paris comme à Marseille. Et ils développent beaucoup de projets atypiques.
Donc, ils pourront eux aussi accompagner les futures associations qui voudraient et développer ce type de projet, décliner le concept. OK.
Donc, il y a vraiment. D'ingénierie.
Voilà, il y a vraiment un partenaire aussi, alors vous, côté associatif, et puis partenaire côté économique, du coup. Montage de projet, en tout cas. Super. Donc, c'est vraiment bien ficelé pour développer.
Bien ficelé, tout à fait. Ouais. Parce qu'il le faut, hein, on ne peut pas comme ça redonner un projet et débrouille-toi. Non, vraiment bien accompagner, faire que il y ait un essaimage qui se fasse plus ou moins rapidement aussi, hein, parce que nous, il nous a fallu, on va dire en gros, 3 bonnes années. Mmh. Là, on espère que en une année, un prochain training qu'on a fait pourra se monter à partir du moment où il y aura un lieu, des personnes, un comité de pilotage.
D'accord. Ben oui, non, mais ça me paraît. En tout cas, le projet a l'air tout à fait cohérent et motivant. J'ai découvert, et ce sera ma dernière question, j'ai découvert que sur votre site, vous proposiez également des solutions pour les indépendants et les entreprises. On en a parlé avec un espace de séminaire, d'accueil de séminaires et d'événements avec l'extérieur aussi, les terrasses, les différentes terrasses. Il y a un espace de coworking aussi, j'ai découvert. As-tu déjà eu des retours sur cette offre ? Est-ce que tu as déjà accueilli des entreprises ? Parce que je sais que chez nos auditeurs, beaucoup aimeraient attirer des séminaires, des événementiels. Est-ce que tu as eu des retours sur cette offre ? Et comment tu as réussi à les attirer, ces entreprises ?
Alors, c'était un peu du bouche à oreille, hein, tout simplement, puisque nous existons depuis qu'un an à peine. Et nous avons... investi que récemment dans du matériel pour du coworking. Et bon, une personne est venue, une deuxième, et puis voilà, ça s'est enchaîné. Les gens viennent et reviennent, c'est ça qui est important. Les entreprises se sentent à l'aise, comprennent le projet lié au handicap et sont solidaires à notre cause et se sentent au confort aussi, hein, puisqu'on leur propose à la fois des espaces pour leurs réunions, un repas, des échanges toujours avec les personnes.
Et tout ça à seulement 20 minutes de Marseille aussi.
À 20 minutes, c'est facile d'accès.
C'est facile d'accès, il n'y a pas plus, y a pas plus
alors,
facile.
On peut venir en train, en voiture, en vélo, en marchant ou même en bateau.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment facile d'accès. Ça, c'est indéniable.
D'accord. Donc, effectivement, toute cette dimension logistique et sociétale, finalement, c'est ce qui doit, à mon avis, représenter un attrait pour les entreprises. Je crois que vous avez pas mal... Tu l'as dit, hein, vous avez investi sur la salle de séminaire, sur les équipements. Je crois que tu en as parlé, le prochain investissement, il concernera l'aménagement des extérieurs. Le but étant d'atteindre une capacité d'accueil un peu plus grande que ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu veux toucher jusqu'à 80 personnes ? Atteindre une capacité
de 80. On veut encore aménager plus d'espace dans les 500 mètres carrés de jardin parce qu'il est très beau ce jardin. Il jette quand on arrive sur la Calanque. Au début, on ne photographiait que la gare. Aujourd'hui, on photographie à la fois le jardin, les espaces verts et la gare. Et donc, l'idée, c'est de créer une nouvelle terrasse avec vue sur mer en face du potager pour bien montrer l'activité permaculture et accueillir plus de monde. Parce que, comme je disais, il faut pousser les murs. On a tellement de succès.
Ou aller creuser dans le sous-sol, c'est apparemment ce que vous allez faire aussi.
Oui, alors la cave, c'est normal puisque nous sommes tiers-lieu. Fabrique des territoires et du numérique. Et il est important de développer...
D'avoir ces espaces numériques, du coup.
Ouais. On a la partie coworking, ça faisait partie du deal, mais aussi du numérique et des espaces virtuels. Ça, c'est notre grand projet d'avenir pour à la fois stimuler les jeunes dans leur motricité et puis avoir un espace hors du commun qui va les transporter partout ailleurs avec de la réalité augmentée.
C'est super. Et moi, justement, pour terminer, quand j'avais vu cet espace de coworking, moi qui baigne vraiment dans le monde du tourisme et qui découvre à chaque fois des nouveaux concepts de tourisme, donc là, on est clairement dans le tourisme social, hein, mais j'ai aussi découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, le tourisme communautaire, donc en fait, où se mêle le... Je t'avais parlé du co-living, en fait, où se mêle le côté travail avec le coworking et le côté living, donc avec la vie, le lieu de vie. Et en fait, je me dis, mais en fait, demain, ça va appeler un espèce de tourisme communautaire et social, en fait, les deux ensemble, où justement, les gens pourront venir vivre sur place et travailler, mais aussi, du coup, peut-être, pourquoi pas, participer en fait, et soutenir ces actions solidaires de manière solidaire. Et je trouve ça génial, en fait, de demain, ça peut devenir vraiment plus gros que ça, avec même une implication, justement, de tous ces freelances qui, je dis freelance, c'est souvent des freelances qui vivent en co-living. Ça peut être vraiment intéressant, des gens qui restent pour un mois, deux mois, c'est souvent le principe du co-living.
Possible. C'est vraiment possible et c'est ce que nous voudrons faire plus tard. Hein, et même déjà maintenant, on a de quoi accueillir, héberger des entreprises. Plus de jours, c'est vraiment génial parce qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation quand même. Déjà pour mieux connaître nos jeunes, mais sur un mois, deux mois, c'est vraiment... la période idéale quoi pour que il y ait vraiment une belle relation qui se crée hein. Mmh. Actuellement on a un atelier cinéma avec l'école de cinéma de Marseille et au départ les relations étaient très timides aujourd'hui mais c'est des
petits amis. Ils s'entendent super bien. C'est génial.
Il y a un tournage la semaine prochaine, tout le monde est excité, enfin c'est génial.
Oui, je pense qu'effectivement, au début, une des appréhensions, et puis une fois que finalement on se rend compte que tout tourne normalement, finalement, on s'enlève un peu quelques barrières. Ça, je l'ai ressenti aussi quand j'ai été sur place et que j'ai vu qu'à quel point ils étaient proches en fait, de nous. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Ils se sont prêtés au jeu quand je les ai pris en photo. J'ai adoré ça. Donc, c'était vraiment chouette. En tout cas, un très beau projet, de belles perspectives d'évolution. C'est tout ce que je souhaite au projet du Training Café. Encore merci à toi, Katia, d'avoir partagé ce magnifique projet.
Ce podcast.
Et mon seul regret, encore une fois, c'est de ne pas avoir pu vivre l'expérience de dormir dans une gare. Mais je note que je reviendrai avec grand plaisir. Et encore une fois, je m'adresse vraiment à tous les digital nomades qui peuvent écouter, parce que je suis aussi pas mal écoutée par des indépendants, des freelances. C'est aussi de dire, venez tester le Training Café. Là, pour le coup, voyage 100% responsable et dans tous les sens du terme du voyage responsable. Donc là, pour moi, je vous cochais vraiment toutes les cases et c'était vraiment un plaisir pour moi de vous mettre en lumière. Mettre en lumière ces petites étoiles, justement.
Merci, merci beaucoup.
Merci à toi, Katia. À bientôt.
À très vite.
Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, j'ai passé un excellent moment avec Katia. J'espère que ce projet social et solidaire vous a touché. Et n'hésitez pas, si vous entendez parler d'un projet de réhabilitation de gare près de chez vous, pourquoi pas le soumettre à une association qui serait prête à développer ce type de projet également partout en France. C'est une manière aussi finalement de participer à ce beau projet. En tout cas, si vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à suivre le Training Café et l'association TKF21 sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai tous les liens dans la description de cet épisode. Et puis sinon, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à faire découvrir ce projet le plus possible autour de vous. Et en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao !